Chapitre 65. Dalton leva les yeux quand il entendit quelqu'un entrer dans son nouveau bureau. C'était Hildemara, vêtu d'une robe de satin jaune qui ne dissimulait pas grand-chose de ses charmes au cas bien improbable où ils auraient intéressé quelqu'un. Le nouveau ministre de la Civilisation se mit debout pour accueillir l'illustre dame. Lui, dans cette pièce, assis ailleurs que sur le siège du visiteur, même s'il en rêvait depuis longtemps, il ne parvenait pas encore à y croire vraiment. Hildemara, quelle bonne idée d'être passé me voir. Dame Chanbourg gratifia Campbell d'un regard de prédateur affamé. Elle contourna le bureau pour être plus près de lui et s'assit au bord afin de le regarder droit dans les yeux. Dalton, votre nouvelle tenue vous va à merveille. Vous l'aviez fait tailler à tout hasard, je suppose. Hildemara passa un index lascif sur la manche ornée de broderies du pourpoint, effectivement flambant neuf. Et ce bureau, on jurerait qu'il a été conçu pour vous. Mon mari avait toujours l'air d'y être entré par hasard. Vous, on croirait que vous y êtes né. Quelle classe très chère. Merci, Hildemara. Puis-je dire que vous resplendissez aussi? Dame Chanbourg sourit. Pour se moquer de lui ou parce que le compliment la touchait? Dalton n'aurait su le dire. Mais une chose était sûre. Depuis le décès inattendu du pontife, Hildemara ne faisait pas mystère de l'admiration éperdue que Campbell lui inspirait. Cela dit, ce n'était pas une raison pour baisser sa garde et encore moins pour offrir son dos au couteau qu'elle prévoyait peut-être de lui enfoncer entre les omoplates.
« En ville, »
annonça l'épouse de Bertrand,
« le dépouillement des suffrages est terminé et les premiers résultats du reste dans des rites commencent à arriver. »
Dalton paria que l'issue du scrutin n'était pas étrangère à l'humeur rayonnante d'Hildemara, mais il préféra s'en assurer.
Et comment le peuple a-t-il répondu à la proposition du seigneur Rall? Ce daran ne vous arrive pas à la cheville, Dalton. Vous lui avez flanqué une bonne correction. Vraiment, assez convaincante pour qu'il ne soit pas tenté d'insister par des moyens moins démocratiques. Les citadins n'ont pas cru bon de gober sa propagande. 70% ont voté non. Et les autres?
Demanda Campbell sans dissimuler son soulagement.
« On ne sait pas encore tout, peu de soldats sont revenus avec des résultats. Mais où en sommes-nous à cette heure? Pour être franche, il y a de quoi s'étonner. En bien ou en mal ?»
Hildemara sourit de plus belle.
« Le pire résultat donne 3/4 des votes en notre faveur. À certains endroits, les croix représentent entre 80 et 90% des bulletins. « Je l'espérais, »
souffla Dalton.
« Mais avec la démocratie, on ne peut jamais être sûr de rien. »« C'est stupéfiant, messieurs ministres. Vous êtes un génie, et tout ça sans même avoir pu tricher. »
Dalton serra les poings de joie.
« Merci d'être venu m'annoncer ces nouvelles, Hildemara. Vous voulez bien m'excuser, je vais aller les transmettre à Teresa. » Avec tout ce travail, je l'ai à peine vue ces dernières semaines. Elle sera ravie d'apprendre que mon labeur a porté ses fruits. »
Dalton fit mine de s'éloigner, mais Hildemara le retint d'un index plaqué sur son plexus solaire.
« Teresa est déjà au courant, j'en suis sûr, »
dit-elle avec un étrange sourire.
« Comment aurait-elle su avant moi ?»« Bertrand, bien entendu. »« Bertrand ?» Et pourquoi parlerait-il de sujets pareils avec mon épouse? Très cher, il est bavard comme une pie quand il bâtit folle entre les jambes d'une femme qui lui plaît.
Dalton se pétrifia et un signal d'alarme retentit dans sa tête. Depuis la nomination de Bertrand, il avait beaucoup délaissé Teresa. Et sa femme avait pour le pontife, la fonction, pas l'homme, une vénération sans limite. Après avoir rencontré l'ancien chef spirituel d'Anderit, se souvint-il, elle avait passé la nuit et la matinée à prier. Et quand Bertrand avait accédé au trône, elle l'avait regardé, eh bien,
avec d'autres yeux. Il se força à brider son imagination. Les soupçons de ce genre risquaient de miner de l'intérieur l'âme d'un homme. Sachant qu'il avait été très occupé, Hildemara voulait lui faire peur ou semer la zizanie dans son ménage, un comportement tout à fait dans son style.
« Ce n'est pas drôle, dame Schönbourg. »
S'appuyant d'une main sur le bureau, Hildemara se pencha pour caresser la joue du nouveau ministre.
« Ce n'était pas censé l'être, très cher. »
Dalton s'assit et se força au calme. Avant de savoir de quoi il retournait, toute réaction impulsive risquait de lui coûter cher. Si Hildemara mentait pour le monter contre Tess et l'inciter à se venger en couchant avec elle, il lui faudrait manœuvrer avec la plus grande subtilité. Cela dit, il pouvait s'agir de rumeurs qu'elle avait mal interprétées. C'était peu probable, car elle disposait d'excellentes sources d'informations, mais il ne devait pas négliger cette hypothèse.
« Hildemara, vous ne devriez pas répéter des ragots aussi injurieux. »«
Des ragots? Très cher. J'ai vu la douce Teresa sortir de sa chambre. »«
Vous la connaissez, elle est très dévote. »
Et j'ai entendu Bertrand se vanter devant Stein de sa bonne fortune.
Quoi ?
Le sourire de Dame Schönbourg devint enfin un rictus.
Selon mon époux, une fois qu'elle est au lit, Teresa adore jouer les vilaines petites filles. Ce pauvre Stein en avait les yeux qui lui sortaient de la tête.
Le sang lui montant aux joues, Dalton envisagea de tuer Hildemara sans attendre. Quand sa main se posa sur la garde de son épée, il songea que c'était une excellente idée.
Mais il parvint à se contrôler même si ses genoux tremblaient.
« J'ai pensé que vous deviez être informé, Dalton. Savoir que Bertrand besognait est-ce à votre insu me désolait. Votre ignorance aurait pu devenir embarrassante à la longue. »
Dalton dut reprendre son souffle avant de parler.
« Pourquoi tant de satisfaction, Hildemara ? »
parvint-il à demander.
« Parce que j'en avais assez de vos déclarations hautaines sur la fidélité. Cette façon de regarder les autres de haut parce que votre épouse et vous étiez des parangons de vertu. »
Dalton parvint par miracle à ne pas dégainer son épée. Dans les moments de crise, il réussissait toujours à se discipliner. Un esprit analytique comme le sien était conçu pour trouver la meilleure solution possible aux problèmes les plus inattendus. En se faisant violence, il accomplit une nouvelle fois cet exploit.
« Merci, Hildemara. J'aurais effectivement pu me ridiculiser. »«
Dalton, n'en faites pas toute une affaire. Je vous le demande comme une faveur. Vous devriez être ravi, au contraire. » Nous parlons du pontife, ne l'oubliez pas. Tout citoyen d'Andéry devrait être flatté qu'il ait choisi sa compagne. Quand cela se saura, on vous aimera et on vous respectera plus encore. Un homme dont la femme a l'écrasante mission d'offrir un peu de joie au guide suprême de la nation. D'ailleurs, vous auriez dû vous y attendre. C'est vous qui avez fait de Bertrand le représentant du Créateur en ce monde ? Et Teresa, en l'occurrence, se comporte comme un fidèle et loyal sujet.
Hildemara ricana.
Si ce que j'ai entendu est vrai, sa loyauté est même admirable. Pour lui en remontrer sur ce plan, il faudrait se lever tôt.
Hildemara se pencha et posa un baiser sur l'oreille de Dalton.
Je suis prête à relever le défi, très cher.
Sans quitter sa proie des yeux, Dame Schönbourg se redressa.
« Depuis toujours, vous me fascinez. Alors que je me croyais experte en la matière, je n'avais jamais rencontré un homme aussi retors et dangereux que vous. »
Elle se tourna vers la porte.
« Après une saine réflexion, vous verrez que c'est sans importance, mon ami, je vous l'assure. Au fait, on dirait que votre vœu de fidélité n'a plus lieu d'être. » « N'avez-vous pas dit que vous viendriez à moi si cela arrivait ? Surtout, n'oubliez pas cette promesse. »
Quand Hildemara fut sorti, Dalton resta assis dans son fauteuil, l'esprit en ébullition. Quelle serait la meilleure solution à ce problème ? Callan posa ses mains sur les épaules de Richard, se pencha et glissa sa joue contre la sienne. Puis elle lui posa un baiser sur la tempe. Le jeune homme sembla ravi de cette douce diversion.
« Tu avances bien ?»
Richard s'étira et bâilla. Par où allait-il commencer ?«
Ce type était un sacré tordu, » finit-il par dire. « Ce qui signifie ?»
Je n'ai pas encore tout traduit, mais je commence à avoir une bonne vision des choses. Richard se frotta les yeux.
Ander a été envoyé ici pour bannir les carillons. Il a compris le problème en un clin d'œil et trouvé une solution très simple.
Les sorciers de la forteresse ont jugé qu'il était un génie et ils le lui ont dit.
Un compliment qui lui a fait une belle jambe, je parie.
Exactement. Il n'en parle pas dans ce livre-là, mais... D'après ses autres textes, il n'était pas homme à se rengorger d'avoir réussi ce genre d'exploit. En revanche, quand il s'agissait de mépriser ceux qui avaient échoué, il ne se gênait pas.
Donc l'affaire était réglée? Que s'est-il passé ensuite?
Les sorciers lui ont ordonné d'agir au plus vite. Les carillons faisaient des dégâts très similaires à ceux d'aujourd'hui, et la menace devait être levée sans délai.
Ander répondit à sa façon. Puisqu'ils avaient eu le bon sens de l'envoyer... Ses supérieurs pouvaient-ils avoir l'obligeance de ne plus lui dicter ses actes?
Les sorciers n'ont pas dû être ravis.
Ils l'ont imploré de passer à l'action parce que des innocents mouraient. Avec une guerre sur les bras, ils connaissaient trop Ander pour prendre le risque de le brusquer. Ils lui ont dit de se fier à son propre jugement, mais d'aller aussi vite que possible pour éviter qu'il y ait trop de victimes. Ce message lui a mis du baume au cœur, mais... Il a saisi l'occasion pour entamer une polémique avec ses supérieurs.
À quel propos ?
Richard en soupira de frustration.
Avec Joseph Ander, il était difficile d'avoir des certitudes, et plus ardu encore de les formuler.
Et il me reste des pages et des pages à traduire. C'est un travail lent et difficile.
Mais je doute que ce livre nous apprenne comment bannir les carillons.
Ander n'était pas du genre à coucher sur le papier ces choses-là.
Callan se redressa et s'adossa à la table pour être face à Richard.
« Seigneur Hall, n'essaie pas de me faire marcher. Je sais que tu es bien meilleur que ça. Que me caches-tu ? »
Le sourcier se leva, tourna le dos à la jeune femme et se massa les tempes.
« Tu ne me fais pas confiance ?»
demanda Callan. Richard se retourna.
« Non, ce n'est pas ça. Mais dans tout ce qu'il dit, j'ignore où la vérité s'arrête pour céder la place à la folie. »
Ça va tellement plus loin que tout ce que je sais ou crois savoir sur la magie. »
Callan se rembrunit. Le sourcier eut un peu honte de l'angoisser alors qu'il se trompait peut-être, mais pour l'instant elle était loin d'avoir aussi peur que lui.
« Joseph Ander, » dit-il, « se pensait largement supérieur aux autres sorciers. Nous avions cru le comprendre, non ?
L'ennui, c'est qu'il avait peut-être raison.
Quoi ?
Parfois la folie fait le lit du génie.
Moi, j'ignore où tracer la ligne de démarcation. D'un côté, mes lacunes en magie sont un handicap. De l'autre, elles m'épargnent d'avoir des idées préconçues, comme les supérieurs d'Ander. Du coup, je vois peut-être des choses qu'ils n'ont pas remarquées.
Ander ne considérait pas la magie comme un ensemble de rituels.
Tu vois ce que je veux dire? Une pincée de poudre d'œil de dragon, un mot à répéter trois fois en faisant la toupie sur le pied gauche, tous ces trucs-là, quoi.
Pour lui, c'était une forme d'art. Un moyen d'expression.
Je ne te suis pas,
avoua Callan.
Si on ne lance pas correctement un sort, il fait long feu, et voilà. J'avais une façon très précise d'invoquer mon pouvoir. Et nous avons attiré les carillons dans ce monde en respectant à la lettre, sans le savoir, les exigences d'un sortilège.
Richard avait prévu que Callan, avec toute sa culture magique, aurait les mêmes difficultés à comprendre que les sorciers de l'époque. Il en éprouva une frustration qui devait ressembler en mode mineur à celle qu'avait connue Joseph Ander. Cette réaction lui permit de mieux cerner la personnalité de la montagne. Quand on savait que la vérité était ailleurs, entendre des gens vous asséner des faits prétendument incontournables avait effectivement de quoi rendre fou. Surtout quand il était impossible de leur faire ouvrir les yeux pour voir ce qui se trouvait en somme sous leur nez, des concepts trop abstraits pour qu'ils parviennent à les intégrer à leur étroite vision du tout. Comme Ander, des millénaires plus tôt, Richard essaya une approche différente.
« Je sais tout ça et je ne dis pas que tu te trompes, mais il pensait qu'il y avait plus que cela. Selon lui, la magie pouvait être abordée à un niveau plus élevé, bien au-delà de ce que faisait l'immense majorité de ses collègues.
« Du délire !»
souffla Callan, de plus en plus inquiète.
« Non, j'en doute. »
Richard prit le livre de voyage.
« Je vais te lire la réponse que fit Ander à une question des sorciers. Ce n'est pas lié à notre problème, mais écoute bien pour comprendre sa façon de penser.
Un sorcier qui ne peut pas vraiment détruire est incapable de créer pour de bon. »
Ander parlait d'un sorcier uniquement doué pour la magie additive, comme Zed. Pour lui, contrôler une seule facette de la magie revenait à dire qu'on n'avait pas le don. Un tel sorcier à ses yeux était une aberration et un être gravement handicapé.
Le sorcier continua sa lecture.
Un sorcier doit se connaître lui-même, sinon il risque de lancer des sorts pervertis qui nuiront à son propre libre arbitre.
Là, il parle des aspects créateurs de la magie, quelle que soit son obédience.
La magie concentre et intensifie les passions. Elle décuple la joie, mais aussi des sentiments plus destructeurs, les transformant en obsessions. La tension interne devient alors insupportable, sauf si on s'en libère en passant à l'acte.
On dirait qu'il cherche à justifier ses méfaits et rien de plus.
Non, je ne crois pas.
Il avait l'intuition de quelque chose de très important. Une conception supérieure de l'équilibre.
Callan secoua la tête. À l'évidence, elle n'entrait pas dans le raisonnement du sorcier. Ne voyant pas comment l'y aider, il reprit sa lecture.
Écoute bien, c'est important.
L'imagination. Voilà ce qui fait la grandeur d'un sorcier. Grâce à elle, il peut dépasser les limites que lui imposent les traditions. En allant au-delà du monde tel qu'il est, il accède à un royaume supérieur où se tisse la trame même de la magie.
C'est ce que tu voulais dire au début avec ta forme d'art ou ton moyen d'expression? Comme si le sorcier, devenu l'égal du créateur, tirait du néant une sorte de tapisserie de magie?
Exactement.
Mais écoute plutôt la suite.
À mon sens, c'est la phrase la plus importante que Joseph Ander ait jamais écrite. Quand les carillons eurent cessé de sévir, les autres sorciers lui demandèrent comment il s'y était pris.
On sentait de l'angoisse dans la manière dont ils formulaient leurs questions. Et voilà la réponse lapidaire qu'il leur fit.
« Une grâce peut naître des exigences d'un sortilège inventif. »
« Par les esprits du bien, qu'est-ce que ça signifie ?»«
Je crois qu'il a imaginé ou rêvé une nouvelle forme de magie, sans rapport avec les données de l'invocation originelle qui a attiré les carillons dans notre monde. » Une solution adaptée à la situation et à ses besoins.
En d'autres termes, il est devenu un créateur.
Callan écarquilla les yeux.
Richard devina qu'elle sondait mentalement le gouffre de démence dans lequel il risquait de basculer. C'était donc à un fou qu'il devait d'être aujourd'hui confronté au carillon.
L'univers est au bord de la destruction,
souffla l'inquisitrice.
Et tu me dis que Joseph Ander était un artiste de la magie?
Je te répète seulement ce qu'il affirmait.
Richard passa à la dernière page du carnet.
J'ai voulu connaître l'ultime message qu'il a adressé au sorcier.
Il relut le texte pour s'assurer qu'il l'avait bien compris, puis le traduisit à haute voix.
Au terme de ma réflexion, j'ai conclu qu'il convenait de rejeter le créateur et le gardien. En imaginant ma propre solution, qui est à la fois ma renaissance et ma mort, je protégerai mon peuple jusqu'à la fin des temps. Aujourd'hui, je vous dis adieu, car mon âme doit s'aventurer dans des eaux troubles et en même temps veiller à jamais sur mon œuvre, désormais inviolable et hors de portée de toute menace.
Richard releva les yeux.
Tu as compris à présent?
Il vit que ce n'était pas le cas.
« Callan, je pense qu'il n'a pas banni les carillons. Tout au contraire, il s'est servi d'eux pour protéger ce qu'il appelle son œuvre. »«
Que racontes-tu? À quoi pourraient servir les carillons ?»«
À créer les dominis d'Urch. »«
Quoi?
Richard, tu... »«
Admettons un instant que tu aies raison. Dans ce cas, comment aurions-nous pu les réveiller sans le vouloir en satisfaisant aux exigences d'un sortilège strictement défini ?»
Si j'ai bien compris, Ander était allé bien au-delà des structures magiques de ce type.
Exactement l'argument que Richard attendait.
C'est une affaire d'équilibre, tout simplement.
Tu ne saisis pas? La magie doit être équilibrée. Pour agir comme un créateur, il a dû compenser en imaginant une formule très stricte où l'imagination n'avait pas sa place. La rigueur des exigences requises pour libérer les carillons est l'image inversée du sort inventif qu'il a lancé.
Richard connaissait assez Callan pour savoir qu'elle n'était pas convaincue. Mais il ne se sentait pas d'humeur à polémiquer.
« Et maintenant, que devons-nous faire pour bannir les carillons ?»«
Hélas, je n'en sais rien. Et je crains qu'il n'y ait pas de réponse à cette question. Les sorciers de l'époque se sont également heurtés à l'hermétisme volontaire d'Under. Pour finir, ils ont considéré que cette partie du monde était perdue pour eux.
J'ai peur qu'Under ait tissé une toile de magie indestructible pour protéger une énigme dépourvue de solution. »
Callan prit le livre, le referma et le posa sur la table.
« Richard, je me demande si tu ne perds pas un peu la tête à force de lire les élucubrations d'un illuminé. La magie ne fonctionne pas comme ça. »
Les sorciers de la forteresse avaient répondu la même chose à Under. Ils ne pouvaient pas prétendre contrôler et transformer des éléments par définition indomptables.
Richard ne révéla pas ce détail à Callan.
Elle n'était tout simplement pas préparée à penser la magie de cette façon, comme les sorciers de jadis et sans doute ceux d'aujourd'hui. Révolté qu'on rejette aussi sommairement ses idées, Joseph Under s'était à jamais coupé de ses collègues.
« Je suis désolé de t'avoir bousculé, » dit Callan un peu plus tard.
Elle passa un bras autour du cou de Richard.
« Je sais que tu fais de ton mieux, mais je suis un peu nerveuse à cause du vote. »«
Ma chérie, les gens sauront voir la vérité. Il le faut. »
La jeune femme détourna les yeux.
« Richard, » souffla-t-elle, « tu veux bien me faire l'amour ?»«
Ici, tout de suite ?»«
Nous pouvons fermer le rabat de la tente. De toute façon, personne n'entre sans demander la permission. »
Callan sourit.
« Je jure de ne pas trop crier pour ne pas t'embarrasser. »
Du bout d'un index, elle releva le menton de son mari.
« Et je promets de ne pas m'en vanter devant ton autre épouse. »
Richard eut un sourire qui s'effaça très vite.
« Callan, nous ne pouvons pas. Pourquoi pas? Tu paries que je te fais changer d'avis ?»
Le sourcier tapota la pierre noire du collier offert par Chota à l'inquisitrice.
« La magie n'agit plus. Ce bijou ne nous empêchera pas de... « Je sais. Et c'est pour ça que je veux faire l'amour. Richard, je me fiche de ce qui arrivera. Nous aurons sans doute un enfant, et alors ?»«
Tu sais très bien ce qui arrivera. »
« Tu crois que ce serait mal ?»
Des larmes roulèrent sur les joues de Callan.
« Avoir un enfant n'est pas un crime. »« Bien sûr que non. Et j'en rêve aussi, tu ne l'ignores pas. »«
Mais pour le moment, c'est impossible. »« Tu voudrais avoir peur à chaque instant que Chota jaillisse des ombres ?»«
Cette angoisse nous détournerait de notre devoir. »« Le devoir, encore. Et nos désirs, que deviennent-ils ?»
Richard détourna la tête.
« Tu aimerais vraiment donner le jour à un enfant dans un monde aussi fou, avec la menace des carillons et la perspective d'une guerre totale ?»«
Et que ferais-tu si je répondais oui ?»
Richard fit de nouveau face à sa bien-aimée et lui sourit. Avec ses nobles déclarations, il la bouleversait pour rien.
Voir du chahut enceinte lui donnait envie d'avoir un enfant, et il n'y avait rien de plus normal.
« Dans ce cas, je serais d'accord. » Et nous ferions un petit, que ça plaise ou non à Chota, dont je promets de me charger.
Mais ne pouvons-nous pas attendre d'être sûrs que le monde ne disparaîtra pas demain, et que nous n'élèverons pas un enfant sous le règne de l'ordre impérial ?
Callan eut un pâle sourire.
Tu as raison, bien entendu. Je me suis, laissé emporter par mon enthousiasme. Il faut bannir les carillons, puis vaincre Jagang.
Richard prit la jeune femme dans ses bras pour la consoler.
À cet instant, le capitaine Meffert demanda s'il pouvait entrer.
« Tu vois ?» souffla le sourcier à sa compagne qui eut un sourire mélancolique.
« Venez donc, capitaine, vous ne nous dérangez jamais. »
L'officier resta campé sur le seuil, les yeux baissés.
« Que se passe-t-il »«
Seigneur, mère inquisitrice, nous connaissons les résultats de Fairfield et de quelques autres régions d'Amderit, mais pas toutes, rassurez-vous. « Certains de nos soldats ne seront pas là avant des jours. »«
Alors, ces résultats, capitaine ?»
Meffert tendit une feuille de parchemin à son seigneur.
Richard lut les chiffres et eut besoin d'un moment pour en croire ses yeux. « 70% de non à Fairfield. »
Callan prit doucement la feuille et la consulta, puis sans un mot, elle la posa sur la table.
« D'accord, » soupira Richard. « Nous avons vu ce qui se passait en ville. Avec tous ces mensonges, le résultat n'est pas étonnant. Mais dans les autres régions du pays... »«
Richard, » dit Callan,
« la propagande a été la même partout. »«
Peut-être, mais nous avons parlé à ces gens. Nous avons passé du temps avec eux. Capitaine, quels autres résultats avez-vous ?»«
Eh bien, par exemple, cette ville, quel était son nom ? Westbrook, là où se dresse le temple dédié à Joseph Ander. » « Avons-nous le compte des voix ?»
Inquiet, mais Furt recula d'un pas.
« Oui, seigneur Rall. Alors parlez, bon sang !»«
Richard !»
intervint Callan.
« Le capitaine est dans notre camp !»
Le sourcier prit une grande inspiration.
« Capitaine, auriez-vous l'obligeance de me communiquer le résultat de Westbrook ?»
Blanc comme un linge, l'officier se racla la gorge.
90% de croix, seigneur.
Richard vacilla comme si on l'avait giflé. Il avait parlé aux habitants et se souvenait de certains de leurs noms, sans parler de leurs superbes enfants. Comme si le sol s'était ouvert sous ses pieds, le sourcier eut le sentiment de tomber dans un gouffre de folie. Il avait travaillé jour et nuit pour aider les Andériens et les Haken à choisir le chemin de la liberté, et il venait de le rejeter.
« Tu n'y es pour rien, » murmura Callan. « Nos adversaires ont menti au peuple, ils l'ont effrayé. »«
J'ai parlé à ces gens. Je leur ai dit que nous luttions pour leur avenir et celui de leurs enfants.
Je sais. »
Très mal à l'aise, le capitaine sautillait d'un pied sur l'autre. D'un geste discret, l'inquisitrice lui signala qu'il pouvait se retirer. Après un rapide salut, il obéit avec un soulagement visible.
« Je vais prendre l'air, » dit Richard. Et j'ai besoin d'être seul. Surtout, ne m'attends pas pour te coucher.
Sans un mot de plus, il sortit de la tente.